carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Madame Annie Madévache, qui est la conservatrice adjointe chargée des collections iconographiques et qui va nous parler d'un peintre extrêmement intéressant, fascinant par bien des aspects, qui s'appelle Joseph Vernet. On peut l'appeler le premier peintre de la marine, je crois.
Le premier peintre de marine, en tous les cas, reconnu comme tel, oui, absolument. On peut tout à fait l'appeler ainsi, puisque ce sera le premier artiste français à recevoir de façon très officielle une commande ne traitant que des ports, que de la marine. Et c'est au travers de ces peintures de marine qu'il se fait véritablement connaître.
Qui est Joseph Vernet? D'où vient-il?
Il est natif d'Avignon, il est né en 1714, il est issu d'une famille de peintres. Son père était déjà un artiste peu connu, ma foi. Et il a de nombreux frères et sœurs, mais il arrive très rapidement à montrer son talent. Et dès l'âge de 14-15 ans, en fait, on le retrouve dans l'atelier d'un peintre de la région, Vialli. Et grâce à sa technique quasiment innée, il se fait très très rapidement remarquer.
Pourriez-vous dire que c'est le peintre du 18e ou l'un des principaux, je veux dire, par là?
C'est vrai que la dénomination s'applique particulièrement bien à Vernet, puisqu'il naît en 1714 et il meurt en 1789, avant la Révolution française. Donc toute sa vie est véritablement ancrée dans la peinture du 18e. Peinture française, oui et non, puisqu'une partie de sa carrière se déroulera en Italie.
Oui, et très apprécié des Anglais aussi.
Des Espagnols, puisqu'il aura une commande à la fin de sa vie du prince des Asturies. On retrouve des tableaux de lui à Saint-Pétersbourg, des commandes qui avaient été faites par les grands des cours d'Europe.
L'œuvre dans le domaine des tableaux comprend à peu près combien de tableaux?
Plusieurs centaines.
Plusieurs centaines.
Plusieurs centaines. Il a été très très productif.
Alors, ce peintre qui est lancé dans le XVIIIe siècle est... Comment obtient-il cette faveur royale?
Alors il faut un petit peu remonter, puisque la grande commande des ports de France date de 1753. Cette commande provient évidemment du roi, de Louis XV, mais par l'intermédiaire du surintendant des bâtiments de France, son ministre de la Culture de l'époque, qui est donc monsieur de Marigny, le marquis de Marigny,
le fameux
frère de la Pompadour, bien sûr.
Le fameux.
Et monsieur de Marigny avait rencontré Vernet, lorsque jeune homme, Marigny, qui s'appelait encore que Monsieur de Vandières, était parti faire le grand tour en Italie, donc pour perfectionner sa culture générale, et il avait rencontré à Rome, en 1750, il avait rencontré Vernet dans son atelier romain.
Alors, ce voyage en Italie, qu'est-ce que ça apporte véritablement à Joseph Vernet?
Il y étudie, puisqu'en fait, il y part très tôt. Il y part en 1734, il est encore jeune homme, il a une vingtaine d'années. Et il est accompagné d'un certain nombre de lettres de recommandation, entre autres auprès de M. Vleugels, qui est donc le directeur de l'école française de Rome, pour essayer d'obtenir une sorte de passe-droit, pour avoir le droit de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, entre autres de pouvoir copier un certain nombre d'œuvres qui dépendent de l'Académie de France à Rome.
Ce qui lui est refusé, d'ailleurs, en partie.
Ce qui lui est refusé, absolument, puisque normalement ne peuvent bénéficier de ce type d'avantages que les peintres qui ont été primés au concours. Donc Vernet n'ayant pas obtenu cette récompense, finalement Vleugels, dans un premier temps, lui refuse, et puis sur l'insistance quand même des recommandations multiples de Vernet, finalement, lui octroie quelques permissions. Et donc, Vernet va pouvoir, comme ça, être un petit peu dans le giron de l'Académie à Rome.
Donc, il n'a pas son voyage d'études tellement facilité au départ.
Non, on ne peut pas dire qu'effectivement...
Un problème de personnalité ou...
Je pense que c'est tout simplement une question d'éthique. Il n'avait pas le droit d'y être, normalement, voilà, le concours était le passage obligé pour obtenir...
Il est bon d'entendre que l'éthique, parfois, est respectée. Donc c'est très... Alors, dites-moi, j'arrive après ce voyage en Italie, évidemment formidable pour tous les artistes, et c'est vrai. Mais, et alors, pourquoi les vues des ports de France sont aussi bien réussies?
parce qu'il a vraiment été sur place et qu'il y est resté très très longtemps. C'est-à-dire que
ce
voyage va lui prendre 10 ans au total. Alors, précisons tout d'abord qu'à l'origine, 25 tableaux avaient été commandés à Vernet, qu'aujourd'hui 15 ont été réalisés, mais que les 15 réalisés ne correspondent pas exactement à la commande initiale. Il y en a 14 qui correspondent à la commande d'origine. Et puis le dernier qui a été rajouté d'une manière un petit peu par raccroc, on y viendra peut-être un petit peu plus tard. Mais donc il a séjourné très longtemps dans chaque port, entre 1 an et 2 ans en moyenne, pour la réalisation de ses tableaux. Donc ça nécessitait d'abord, il a voyagé avec sa famille l'a accompagné à chaque fois, sa femme qu'il a épousée en Italie d'ailleurs, son beau-père, et puis ses enfants au fur et à mesure de leur venue au monde, qui suivaient tout ce train.
Mais je vous arrête, il ne faisait pas seulement un tableau par an, il faisait quelques autres tableaux.
Il travaillait pour le roi, bien évidemment. Mais surtout, plus on avance dans le voyage, et plus il semble que le roi ait des difficultés à payer.
Ah.
On arrive évidemment dans la période de la guerre de 7 ans, donc les caisses de l'État se vident. Et en tous les cas, la priorité que pouvaient être les ports de France au début le deviennent de moins en moins au fur et à mesure de l'avancée de ce projet.
Disons que le roi s'en désintéresse un peu. Il a d'autres chats à fouetter si on...
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Oui. Et donc Vernet, au fur et à mesure, profite d'être dans ces villes que sont Marseille, Toulon, Bayonne plus tard, pour profiter de commandes locales. Il est très réputé, donc les personnalités, les notables des villes dans lesquelles il se trouve sont ravis de pouvoir passer commande à un si grand artiste.
Est-ce que vous avez une préférence pour l'un de ces tableaux ? Est-ce qu'il y en a tout de même peut-être un ou deux qui vraiment vous plaisent beaucoup ?
Il y a deux ports de Bordeaux et j'aime beaucoup celui qui est vu depuis le château Trompette. C'est une question d'angle peut-être, de lumière... J'ai peut-être une petite préférence pour celui-là.
Donc, ce qui vous plaît beaucoup chez Vernet, ça sera un peu la question de luminosité.
Ah, il y a une lumière fantastique dans les tableaux de Vernet. Il s'amuse d'ailleurs à décrire à chaque fois ses tableaux à une heure différente du jour. Il le spécifiait d'ailleurs, puisque tous ses tableaux sont passés par le salon. Tous les 2 ans, les tableaux étaient présentés au salon à Paris, bien évidemment. Et la description qui en était faite par l'artiste stipulait chaque fois à quelle heure du jour avait été réalisé le tableau. Donc on a à chaque fois des lumières, alors soit que ce soit au couchant ou au contraire à l'aurore, on a des lumières absolument fantastiques dans ces tableaux.
Donc pour nos auditeurs, s'il y a au moins un tableau qu'il ne faut pas oublier, c'est le tableau sur Bordeaux. Enfin, il y en a deux, je crois. Hein.
Il y a deux tableaux sur Bordeaux, mais après, ça, c'est le goût que j'ai. Donc, ça n'engage que moi, bien évidemment.
Oui, mais enfin, vous avez...
C'est ma préférence, peut-être.
Oui. Alors, dites-moi, je ne voulais pas l'oublier, quel était le rôle de Diderot dans cette affaire ? Parce que je crois que Diderot, au départ, vous me disiez tout à l'heure qu'il n'appréciait pas tant que ça.
Il se montre assez mitigé dans ses éloges, dans les premières années, vis-à-vis de l'œuvre de Vernet, puisque... Hormis les ports, Vernet présentait d'autres œuvres. Il présentait évidemment des œuvres qui n'étaient pas la commande royale. Et il ne remporte pas absolument tous les suffrages de la part de Diderot à l'origine. Et puis, à partir vraiment de la deuxième moitié de la série, donc vers les années 1760, on sent soudain vraiment un intérêt de la part de Diderot pour cette peinture, peut-être pour sa représentation très fidèle de la réalité, quelque chose qui présente sans phare, ou qui se voudrait sans phare de la réalité, une présentation de toutes les couches de la société. Je pense que Diderot était assez sensible à ce genre de représentation.
Et je vous suis sur ce chemin. Et alors, outre ce rôle de Diderot, cette mutation, disons, de Diderot, il y a tout de même aussi quelque chose d'extrêmement intéressant pour comprendre, pour suivre l'évolution des vues des ports de France, c'est la correspondance entre Marigny et Vernet.
Puisque tout au long de ce périple, qui, comme je le disais tout à l'heure, a duré une dizaine d'années, Marigny et Vernet correspondent régulièrement. Vernet pour parler de ses difficultés parfois à trouver le bon point de vue, parce que ce n'est évidemment pas lui qui a choisi les porcs qui devaient être peints, et ce n'est pas lui non plus à l'origine qui décide de l'angle de vue sous lequel il doit représenter. C'est un commis de la marine qui normalement a établi un certain nombre de règles très précises, et parfois Vernet s'insurge contre ces directives en disant « mais comment voulez-vous que je représente ?» Prenons l'exemple de Paris en disant « c'est comme si vous me demandiez de peindre le Louvre avec en même temps la plaine Saint-Denis, le pont, et il montre que c'est absolument impossible de tout représenter sous un angle de 360 degrés, hormis reprendre vraiment de l'affaire de la cartographie.
Oui.
Et donc il essaye dans ses courriers d'influencer le marquis de Marigny pour le faire revenir sur des décisions qui ont été prises à Paris et que lui, sur place, estime, puis de son point de vue d'artiste, ne pas être du meilleur effet pour le rendu du tableau.
Il négocie, il négocie beaucoup de choses.
Pas à pas.
J'ai remarqué ça en relisant les textes. Alors, je voudrais signaler, avant que nous fassions une pause, je voulais signaler qu'il y a ce très joli livre qui s'appelle Joseph Vernet, Les vues des ports de France de 1714, donc c'est la naissance de Joseph Vernet à 1789, donc au moment de la Révolution. Et c'est publié dans les carnets de bord, donc du Musée national de la Marine. Et vous avez dedans plusieurs articles de très grande qualité, dont un que vous avez écrit, que vous avez commis, qui s'appelle « Un art de perfection », donc par Annie Madévache.
Saviez-vous que le peintre Claude Monet fut un grand collectionneur d'estampes japonaises ? Cette collection dévoile les liens que l'on peut établir entre l'univers des estampes et celui de Claude Monet. Exemple avec sa toile emblématique, impression au soleil levant, composée de ponts japonais, de glycines et de nymphéas. Le peintre était un paysagiste passionné par les jardins d'eau exotiques, japonisants et propices à la rêverie. Cette émission Carrefour des Arts est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Chers auditeurs de Canal Académie, je retrouve avec un vif plaisir Madame Annie Madévache qui va nous parler, bien sûr, de ce peintre Joseph Vernet et notamment au créateur des vues des ports de France. Alors, chère madame, nous le retrouvons pour parler, bien entendu, de ce peintre tout à fait important et qui annonce les peintres de marine, bien entendu, au XIXe et XXe siècle, etc. Mais alors, une question quand même que j'ai envie de vous poser, pourquoi les vues des ports de France sont-elles devenues une importante source de renseignements sur la marine et la société du XVIIIe siècle?
Chaque peinture de Joseph Vernet est une sorte d'exemple, je ne prends volontairement pas l'expression « pris sur le vif », mais d'exemple pris de toutes les couches de la société, au moment où il se trouve sur place, des types de bateaux qu'il rencontre sur place également, et il les recompose à l'intérieur de son tableau, de façon évidemment à les rendre agréables à la vue. Mais chaque élément a été étudié séparément avant de recomposer le tableau final. Donc on voit par exemple les différents costumes qui constituent à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui les costumes traditionnels, qui étaient les costumes portés par tout un chacun au quotidien au XVIIIe siècle. On les voit clairement détaillés sur le port de Bayonne, par exemple, le port de Dieppe. On reconnaît clairement tous ces costumes
tous
si
costumes,
caractéristiques.
Oui, tout à fait.
Il en va de même pour les navires qui se trouvaient dans les ports. Alors, je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas utiliser le terme d'instantané. Vernet ne réalise pas ses tableaux, le chevalet posé en extérieur. C'est une pratique qui viendra bien après. Lui se contente de prendre sur des carnets de croquis un certain nombre de notes. On sait qu'il a également réalisé des dessins préparatoires qui sont des genres de relevés topographiques, mais qui sont justement totalement vides. C'est-à-dire qu'il ne fait de relevés que de la géographie des lieux. Et ça n'est qu'en atelier qu'ultérieurement, il compose sa toile à l'aide justement de différentes notes qu'il a pu prendre sur des carnets de tels personnages, de tels bateaux qu'il a pu voir plutôt dans le port.
Oui, j'ai lu quelque part que sur le port de Marseille, je crois que c'était le port de Marseille, il y avait un centenaire bien connu des habitants,
oui,
et qu'il a croqué.
Absolument.
Donc, on retrouve...
Personnage soi-disant 117 ans présent à l'époque de son passage sur place. Mais il en va de même pour... On parlait du port de Bordeaux tout à l'heure. Le marquis de Tourny est clairement représenté dans le jardin du château Trompette qui est au premier plan. Donc, un certain nombre de personnes se font représenter. J'imagine que les notables y trouvaient également un grand plaisir à se faire portraiturer sur les tableaux d'un artiste comme Vernet.
C'était la pub de l'époque. Est-ce que on a noté s'il y avait plus de personnages féminins ou masculins ?
Je ne saurais vous répondre. On voit vraiment clairement les différentes couches de la société. C'est-à-dire qu'on voit aussi bien, reprenons l'exemple de Marseille, des paysannes qui viennent vendre les produits des champs, que les pêcheurs qui sont avec la pêche du jour. On a un certain nombre de membres du clergé qui sont clairement identifiables à leur habit, évidemment. Des soldats qui sont présents et des membres de l'aristocratie. Donc, de là... Savoir si plus d'hommes ou de femmes sont représentés, je pense que c'est assez équilibré.
Oui, et ça ne frappe pas. Vous voyez, c'est une question qui m'est tout d'un coup venue, mais justement, l'équilibre est là. C'est
absolument.
Autre chose, oui, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir que Joseph Vernet, suite à la commande du roi, fait une série de peintures sur les vues des ports de France, et en même temps, on s'aperçoit que la France... nous le savons tous, n'est pas un grand pays maritime, surtout au début du XVIIIe siècle. Il a tendance à le redevenir, puis après à céder un peu du terrain. Mais il y a comme une sorte de « j'illustre ce que nous aimerions être » et finalement, mais nous ne le sommes pas tout à fait.
Vernet a un rôle assez ingrat, c'est-à-dire qu'il doit à la fois représenter l'état des ports de France au roi. Il doit logiquement représenter ce qui est, mais en même temps, il est courtisan. Donc, la commande étant issue du roi, il va de soi qu'il ne peut pas aller non plus à l'encontre de ce qu'attend le roi comme vision globale de son royaume. On peut prendre deux exemples. Le port de La Rochelle, qui était très, très fréquemment envasé. Et monsieur de Marigny convient avec Vernet qu'il vaut mieux représenter le port de La Rochelle à marée haute, puisqu'on verra moins que le port est envasé, et peut-être rajouter quelques bateaux à l'intérieur du port pour lui donner un semblant d'activité que le port n'a déjà plus. Et il en va de même, encore une fois, pour le port de Bordeaux, excusez-moi d'y revenir une fois de plus, où Vernet arrive dans une ville qui est en pleine campagne d'urbanisation. Et si on regarde les tableaux de près, on voit des façades absolument superbes, totalement achevées. Et on sait par ailleurs que non, c'était encore une fois un vaste chantier et que la ville ne ressemblait certainement pas du tout à celle qu'il a représentée sur le tableau.
Donc oui, c'est assez fascinant parce qu'il y a une représentation symbolique, puissance, d'une activité, d'un dynamisme.
Oui.
Alors qu'au fond, il y a quand même des faiblesses qu'on aimerait bien corriger, bien sûr, mais qui existent tout de même.
On imagine d'ailleurs que c'est un petit peu la volonté de Louis XV, au moment où il lance cette grande commande, d'en faire une sorte d'œuvre de propagande, puisque ces tableaux seraient destinés à être présentés aux ambassadeurs, à être représentés aux grands personnages en visite à la cour, qui serait de montrer justement à quel point la France a une ouverture maritime importante, et que ce soit, et c'est ça qui est intéressant de voir aussi, non seulement sur les ports de guerre, mais les ports marchands. On ne représente pas plus l'un que l'autre. C'est vraiment, on présente tous les types portuaires du littoral.
Est-ce que ces vues des ports de France ont été vraiment appréciées par un certain public ou...
Ils étaient présentés tous les deux ans au salon. Et on sait justement que le roi... Alors, on retrouve dans la correspondance entre Marigny et Vernet l'inquiétude de Vernet de connaître quel a été l'accueil réservé à ses tableaux et surtout comment le roi les a reçus. Marigny laisse entendre que, justement, à chaque fois, ils ont été appréciés et que le roi a même daigné faire un mot concernant le tableau. Donc, a priori, ce sont les seules mentions de l'accueil qui était réservé au tableau par le souverain. Et puis, petit à petit, les choses là deviennent de plus en plus difficiles. Vernet réclame de plus en plus dans ses courriers à Marigny que le roi paye ou qu'on lui paye absolument les sommes qui lui sont dues. On comprend au ton des réponses de Marigny que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et puis finalement, en 1763, on demande à réception du courrier par Vernet d'abandonner même les ports de France destinés au roi pour faire quatre dessus de porte pour Monseigneur le Dauphin, pour Versailles. Et finalement, Vernet utilise presque comme subterfuge le fait de demander de venir pour les installer lui-même, si jamais il y avait une correction, une retouche peut-être à faire, d'être sur place au moment de l'installation des tableaux. En fait, c'est un moyen bien commode de revenir à la cour et puis évidemment de tenter de ne plus en repartir.
Puis vous venez de citer 1763, perte du Canada. Et on comprend qu'après une telle déculottée, si j'ose dire, enfin un tel abandon terrible, pour quand même, quand on regarde l'histoire, si on observe tout cela, 1763 est une date quand même vraiment fatidique. Hein. Alors, je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié les textes qui ont été publiés dans, je rappelle, ce livre... Joseph Vernet, les vues des ports de France 1714-1789, dans les carnets de bord. C'est vraiment un livre très, très agréable à lire, avec de belles photographies, etc. Et alors, il y a plusieurs articles, bien sûr, avec Virginie Duchesne, attachée de conservation du patrimoine, bien entendu, un autre texte d'introduction par Laurent Manœuvre, ingénieur de recherche, direction des musées de France. Et puis, il y a surtout le vôtre aussi, il ne faut pas l'oublier, qui s'intitule Un art de perfection. Et je dois dire que vous nous présentez de façon comme de jolie vague ce Vernet très coloriste. Et j'ai bien envie. Alors d'abord, il y a deux petites questions que je voulais vous poser, parce que ça m'intéresse à titre personnel et pour nos auditeurs, bien entendu. Où sont passées les estampes tirées de ces grands tableaux qui s'appellent les vues des ports de France?
Vous avez raison de parler des estampes, puisque dès 1758, donc dès les premières années après la présentation au salon, le seul moyen de faire connaître les tableaux au public, c'était de les diffuser par le moyen de l'estampe. C'était le seul moyen qu'on avait à l'époque de faire connaître l'image un peu partout dans le royaume. Et donc, une demande est faite par M. Cochin et M. Lebas d'avoir l'autorisation donc, de graver les tableaux de Vernet pour les diffuser. Et il y a un grand nombre de ces gravures qui ont été réalisées. Le musée de la Marine a la chance d'en posséder quelques-unes. Enfin, les grandes collections d'estampes, en général, possèdent une série des vues des ports de France. Mais aujourd'hui, ce qui est amusant de constater, c'est que les cuivres qui ont été réalisés sont la propriété de la calcographie du Louvre, qui est donc juste de l'autre côté de la Seine.
Formidable. Mais alors, quand on parle d'une estampe faite sur un tableau, un de ces grands tableaux, combien a-t-il eu à peu près d'estampes faites? On le sait ou pas?
C'est difficile aujourd'hui. Je sais, par exemple, une des plaques a été tellement utilisée qu'elle n'est plus au catalogue de la calcographie depuis 1907, par exemple. C'est vous dire que... Et les dernières ne sont pas au mieux de leur forme. Elles manquent de contraste. Enfin bon. Mais plusieurs milliers ont certainement été réalisés.
À plusieurs milliers d'un même tableau?
Oui.
Donc c'est considérable.
Oui. Ça a eu un énorme succès. Oh. Et hormis donc les estampes qui reproduisaient l'intégralité du tableau, il est amusant de noter d'ailleurs que Cochin expliquait que c'était assez difficile de les réaliser, ces estampes, puisque pour que le résultat soit dans le même sens que le tableau, il était obligé de réaliser la gravure en regardant le tableau dans un miroir. Puisqu'on sait qu'à chaque fois, évidemment, la gravure inverse, normalement, par son procédé de réalisation, inverse l'image.
Bien sûr.
Donc pour que l'image finale de l'estampe soit à l'identique du tableau, il fallait graver donc le tableau à l'envers.
Il y avait vraiment un tour de main qu'il fallait bien prendre.
Bien posséder.
Bien posséder.
Oui.
Alors, petite question que je me suis posée. Pourquoi, et ça m'a beaucoup intéressé dans ce que vous disiez, pourquoi les naufrages sont-ils autant appréciés des amateurs et des critiques?
Alors ça, c'est l'autre pan de la grande production de Vernet, puisque les ports de France ne présentent pas dans leur représentation, ne présentent pas de naufrages. Mais Vernet est très très connu pour ses scènes très très mouvementées, de tempêtes. Je pense que c'est le début de cet attrait pour ce qu'on a appelé le sublime dans l'art, avec justement cette représentation du drame. Et quoi de plus dramatique que d'être perdu au milieu des flots? Personne ne savait nager à l'époque. Donc,
l'élément.
On est exactement la même période. Vernet a d'ailleurs peint un tableau concernant justement la triste fin, en fait, de Virginie. Donc, On est exactement dans cette atmosphère de recherche du drame esthétique et où l'homme est confronté à la fureur des éléments.
C'est assez impressionnant, ça, je veux dire. C'est impressionnant. Et alors, peut-être aussi aimeriez-vous un peu nous parler de ces magnifiques ciels et mers contenus dans ces grands tableaux de Joseph Vernet.
Oui, puisque c'est cette série de 15 tableaux qui s'appelle Les Ports de France. Quand on les regarde un peu attentivement, on s'aperçoit que ce n'est pas tant ni le port ni la mer qu'on y voit, mais les ciels. C'est ça, tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que la plupart du temps, plus des deux tiers de la toile est occupée par le ciel. Oui. Donc nous parlions de la lumière tout à l'heure, c'est dire si elle a de l'importance dans ces tableaux, simplement par l'espace qu'elle occupe. C'est une lumière qui est à la fois qui est dorée, qui est toujours extrêmement douce. On n'a pas de lumière crue, franche, dure sur les objets. C'est toujours une lumière extrêmement caressante qui ennoblit véritablement le sujet à chaque fois et le paysage.
Est-ce qu'il y aurait quelques autres peintres qui se seraient inspirés, qui auraient été inspirés par la lumière de Vernet par la suite ?
Je pense qu'effectivement, tous les peintres qui ont été par la suite, comme lui, autant attirés par l'extérieur, je vais faire un rapprochement qui est un petit peu hardi, mais Boudin, par exemple.
Quand on a justement des
représentations, donc lui peint sur le motif, enfin la technique est radicalement différente, bien évidemment, mais l'intérêt justement pour cette sorte d'effet atmosphérique lié un ciel en bord de mer est toujours très particulier. On a une humidité dans un ciel de bord de mer que l'on ne trouve pas dans un ciel qu'on trouverait à Paris, par exemple. Et c'est cette humidité qui est si difficile, si délicate à restituer, mais peut-être qui apporte la douceur dont je parlais tout à l'heure.
Boudin a donc été inspiré un peu par... a pu être.
On peut retrouver, en tous les cas, à regarder certains ciels de Boudin que moi j'ai eu à regarder ceux de Vernet.
Je pense que vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter sur ces ciels, ces mers et surtout sur ces couleurs ? Les couleurs de préférence de Vernet, quelles sont-elles ?
Ce sont des couleurs assez chaudes. On a toujours des tons avec beaucoup d'ocre, beaucoup de brun. Il était avignonnais de naissance. Il est resté 20 ans en Italie. Donc je pense que tout ça a énormément influencé sa manière de peindre.
Inspiration donc italienne aussi,
italienne,
bien entendu.
Oui, tout à fait.
Je dirais qu'avec Joseph Vernet, c'est un peu le début des peintres de marine.
Absolument, oui. Tout à fait. La marine reconnue comme vraiment un sujet à part entière, de manière très officielle, par l'intermédiaire de cette commande royale, et qui va vraiment ouvrir la voie à un grand nombre d'artistes d'une part et de productions tout à fait remarquables par ailleurs. Oui.
Écoutez, je vous remercie infiniment, Madame Anima Desvaches, et nous aurons certainement l'occasion de nous revoir pour une autre émission, je l'espère.
Je vous remercie, oui, je l'espère aussi.